Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Ensemble de Radio Grand Ciel à Dreux, 97.7. Nous recevons aujourd'hui Laurent Dollon et Éric Zerbini de l'association Agir pour soulager la douleur, ou le sigle que vous verrez parfois sur Internet, ASD. La devise de l'association est « La douleur n'est pas une fatalité et ne connaît pas de frontières ». Mais pouvez-vous nous définir ce qu'est la douleur ?
Oui, la douleur est déjà une sensation désagréable. C'est-à-dire qu'on perçoit et on reçoit cette sensation et qui va nous créer, je dirais moi, mais souvent, énormément d'émotions. Alors elle est souvent aussi en lien avec une lésion tissulaire, mais ce n'est pas uniquement, et parfois on ne rencontre qu'une lésion tissulaire. Donc la douleur est assez complexe, elle a beaucoup de composantes, et c'est, je dirais, moi, quelque chose qu'il faut combattre à tout prix, parce qu'une personne qui est douloureuse peut, même jusqu'à, je dirais, moi... supprimer sa personnalité. C'est en gros, on est parfois, et on rencontre même au Cambodge, des personnes qui sont tellement douloureuses qu'elles sont complètement amorphes dans un lit. Et on est dans l'obligation, je pense, effectivement, de prendre en charge cette douleur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même cette notion de sensation désagréable qui s'oppose, évidemment, aux sensations agréables qu'on peut éventuellement aussi développer.
Alors, on peut faire une transition, puisque vous nous parlez du Cambodge. Alors, l'association, elle est plus ou moins spécialisée localement pour le Cambodge.
L'association a été créée en 2013 à l'instigation d'une infirmière, Vuki, qui elle-même est née au Cambodge, qui est arrivée en France, elle avait un petit peu moins de 10 ans. Ayant quitté le pays précipitamment. Elle a fait des études d'infirmière en France. Elle a pratiqué en France, mais elle a pratiqué également dans différents pays à travers le monde. Et petit à petit, elle s'est aperçue qu'à l'occasion de quelques retours dans son pays natal, des difficultés qu'il y avait dans le milieu hospitalier local, et en particulier du peu d'attention qui était portée à la douleur. C'est d'ailleurs quelque chose, je crois, Éric ne me contredira pas, qui est assez récent, même en France. Et elle a décidé de grouper des énergies, de la bonne volonté, pour aider le personnel local à prendre en compte la douleur comme un élément essentiel de la thérapie qui est pratiquée dans les hôpitaux au Cambodge.
Alors, on a toujours essayé, effectivement, de se soulager de la douleur. Je pense qu'historiquement, on a trouvé des moyens, même au Cambodge. Je crois qu'il y avait aussi ce qu'on appelle la médecine traditionnelle qui tentait de soulager les douleurs. Mais je pense qu'effectivement, il y a deux façons complémentaires. Ce qui est important, c'est d'agir dans la complémentarité. C'est-à-dire deux façons complémentaires de baisser les intensités douloureuses. C'est évidemment les médicaments, mais aussi toutes ces actions qui, justement, c'est pour ça que j'ai insisté sur les sensations. C'est-à-dire, on a des actions non médicamenteuses qui permettent de baisser les intensités douloureuses en agissant sur notre propre psychisme, sur les puissances qu'on peut avoir à l'intérieur même de notre corps pour essayer d'éliminer le plus possible cette sensation douloureuse qui parfois aussi est une sensation qu'on peut éventuellement tenter de, alors non pas de supprimer, mais de réduire en tant qu'intensité.
Alors pour combattre la douleur, je suppose que vous avez des méthodes. Et quelle est la méthode principale que vous utilisez ?
Il n'y a pas trop de méthodes principales, il y a une série de méthodes. Alors, j'ai parlé des médicaments, je parle aussi d'agir sur les sensations. Donc les médicaments et les sensations, ça peut aller ensemble, puisque la sensation douloureuse, elle peut être baissée par un certain nombre de produits. Mais les autres méthodes, c'est cette prise en charge non médicamenteuse sur lequel on insiste, parce que là-bas aussi, il y a parfois des difficultés à trouver des produits, des médicaments, de la morphine ou même des antalgiques classiques que l'on utilise en France. Mais je dirais que moi, un certain nombre de thérapies peut exister partout. Notamment ce qu'on a appelé l'hypnose médicale, fait partie de la panoplie. Mais je dirais que ce n'est pas forcément uniquement l'hypnose. Ça peut être de la relaxation thérapeutique, ça peut être de la sophrologie, ça peut être ce genre d'actions qui permettent, en fonction des sensibilités de chacun, de pouvoir développer ces thérapies psychiques, psychologiques, qui permettent des baisses de l'intensité douloureuse. Je dirais moi même que ça baisse peut-être même davantage dans le cadre de la douleur aiguë que dans la douleur chronique. Mais on a des résultats. Et je pense que c'est ça qui compte. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas uniquement, je dirais, une panacée universelle. C'est-à-dire qu'en gros, on agit toujours en complémentarité. Je pense qu'il n'est pas question pour l'association notamment de dire qu'on n'a pas besoin de la thérapie, des médicaments. Du non, on associe. Je pense que c'est important d'être complémentaire en permanence.
Oui, alors l'association agit au Cambodge, particulièrement parce qu'il y a quelques années, il y a eu un conflit et que la partie médicale était pratiquement abandonné à cette époque, et votre rôle d'association, c'est d'aider à ce que le corps médical du Cambodge retrouve un niveau quand même correct vis-à-vis de la population. C'est ça ?
Effectivement, le pays revient de loin et se reconstruit encore. C'est un pays pauvre, disposant de peu de moyens. Et l'hôpital public avec lequel l'association a établi un partenariat manque à la fois de moyens et le personnel local manque de formation. Et en particulier, l'attention portée à la douleur des patients est quelque chose qui n'était absolument pas pris en compte dans la pratique du personnel soignant de l'hôpital. Donc l'association inscrit son action dans la durée. Des bénévoles donnent de leur temps, des médecins, des infirmiers, des anesthésistes, périodiquement se rendent dans l'hôpital, démontrent par la pratique ce qu'on peut obtenir en prenant en charge la douleur, forment le personnel aux pratiques qui ont été démontrées. Et l'exercice est un exercice à la fois technique, effectivement, de mise en œuvre des différentes pratiques que Eric décrit et maîtrise, mais également un exercice de passage, de formation, et encore une fois qui s'inscrit dans le temps, puisque c'est les premiers déplacements sur place ont lieu en 2013, et là, deux fois par an, c'est les bénévoles de l'association qui se rendent sur place, et à la fois soulagent directement les patients et encadrent le personnel soignant, transmettent leur savoir-faire, et reviennent périodiquement et petit à petit mettent en place des pratiques pérennes au sein de l'hôpital.
Alors, au point de vue organisation de votre association, vous avez à la fois une administration, bien sûr, parce que pour organiser tous ces voyages, je suppose que ça prend du temps et il faut prendre des contacts, des visas, etc. Et vous avez des bénévoles. Ce sont des bénévoles français, d'hôpitaux français ?
Ce sont essentiellement des bénévoles, aussi bien dans la partie administrative, des gens comme moi-même, hein, qui n'avons absolument aucune connaissance particulière médicale, mais qui donnent notre temps pour collecter les fonds, pour supporter les membres de l'association, pour effectivement les tâches administratives de gestion de l'administration. Et puis du personnel médical que représente Eric, un groupe de personnes qui se découvrent, qui s'entendent, qui voyagent ensemble et qui se rendent sur place périodiquement pour concrètement amener leur savoir-faire au personnel local.
Alors c'est quoi un voyage ? Ça s'organise comment et quelle est votre expérience sur un voyage ?
Le voyage, bon, disons qu'il est organisé assez facilement. Il suffit de prendre un billet d'avion, d'aller là-bas sur l'hôpital. Mais je pense en fait que c'est tout, tout réside ensuite sur le terrain qui est parfois surprenant. Je dirais même, je pense que les premières fois ou la première fois qu'on va là-bas, on est quand même très surpris parce qu'il y a quand même une réalité qui est absolument très très différente de la réalité des hôpitaux français. Donc il est sûr que la première chose, c'est une surprise. Après, on se demande comment on va pouvoir aider. On est un peu au départ, je dirais, démunis pendant quelques temps, quelques jours, je dirais. Et après, effectivement, ça commence à se mettre en place, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des solutions pour pouvoir aider ces soignants qui sont là-bas. Alors, je pense qu'effectivement, il faut qu'on reste aussi dans le cadre de ce qui nous amène sur le terrain. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour agir, pour soulager la douleur, c'est uniquement la prise en charge de la douleur. Parce que là, agir au niveau de la santé, c'est tellement vaste qu'on pourrait s'y perdre, je dirais, entre guillemets. Donc, l'important, c'est de pouvoir aussi, parce que, comme nous venons de le dire, on n'est pas toujours là en permanence. En gros, on est là pour enseigner, pour faire de la formation. Et je dirais que c'est ça le plus important, en ce sens qu'on a sur place la possibilité, je dirais, moi, de former aussi ce qu'on appelle de former des formateurs. C'est-à-dire qu'en gros, que la pérennité se fait avec le personnel qui est sur place une fois qu'il est formé et qui peut lui-même, je dirais, enseigner à ses collègues sur place. Donc je pense que c'est important d'avoir cette opinion, cet objectif même, parce que la formation des formateurs, je pense, est indispensable en ce sens que nous, on est là uniquement quelques semaines par an. Il faut que le personnel soignant puisse compter sur ses propres ressources.
Alors Eric parle avec un peu de pudeur de l'environnement. L'association intervient essentiellement à l'hôpital de Semeriap. Semeriap, c'est la ville des temples d'Angkor, qui accueille aujourd'hui un tourisme, sinon de masse, mais significatif. Et à deux pas des routes qui mènent au temple d'Angkor, l'hôpital de Semeriap, c'est effectivement surprenant. Ce sont des malades dans les couloirs, ce sont beaucoup de traumatismes profonds, des accidents qu'on rencontre beaucoup moins en France, mais des familles qui se déplacent à moto sans casque, des accidents fréquents, et des gens qui arrivent et dans ces hôpitaux. Et même si, avec son dénouement, le personnel local les soigne, aujourd'hui, il y a des pratiques qu'on ne voit plus dans les hôpitaux qui font que des changements de pansements, des nettoyages de plaies peuvent être faits sans attention particulière, effectivement, au traumatisme que ça crée sur le patient. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment conscience que de se livrer à ces actes médicaux en prenant en compte le stress sur la personne permet effectivement d'améliorer véritablement à peu de frais le résultat. Et puis, bien entendu, c'est l'attention au patient qui est aujourd'hui, qui fait partie de notre culture, qu'on essaye de transmettre et dont on sait qu'elle est importante, le respect de la personne. Et encore une fois, si localement ce n'est pas pris en compte, ce n'est pas par absence de conscience, mais par absence de formation. Et en introduisant des moyens qui ne sont pas encore aujourd'hui répandus dans la formation du personnel localement.
Et vous constatez une amélioration au fur et à mesure des voyages que vous faites ?
Au fur et à mesure, oui. Mais je pense qu'il faut pas, il faut avoir un certain recul. C'est-à-dire que quand on revient, on voit effectivement une évolution qu'on n'arrive peut-être pas à constater quand on est sur place. C'est-à-dire, en gros, c'est quand on revient qu'on voit, bah oui, tiens, ils ont pu mettre ça en place, ça fonctionne, etc. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve qu'il y a une réactivité beaucoup très importante du personnel soignant, notamment à ces techniques du genre hypnose. C'est-à-dire qu'ils s'approprient très rapidement la méthode. Ce qui fait que on a un certain, comment dire, je dirais même des fois, parfois moi-même, surprise, bien que l'hypnose me surprenne toujours, mais quand elle est reprise comme ça par les soignants et qu'il y a aussi là-bas un résultat, on est effectivement assez intéressé pour continuer à développer ces pratiques-là. Mais ce qui était important, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une réactivité, c'est-à-dire qu'ils ont, ils s'accaparent très facilement cette méthode. Si je fais une comparaison avec la France, des fois on a ici un certain retard, c'est-à-dire qu'on met du temps, même moi-même, je pense que j'ai mis du temps à utiliser une fois que j'ai eu l'enseignement. Je ne m'y suis pas mis tout de suite, j'ai attendu, comment s'y prendre, etc. Il y a toujours une période de flottement. Mais à la base, j'ai quand même constaté qu'il y avait zéro flottement, et que dès que c'était enseigné, c'était mis en pratique.
Ils font confiance, quoi.
Absolument, oui. Mmh.
C'est une confiance qui s'est construite. C'est la 6e mission dans le même hôpital, on prépare la 7e. Et effectivement, les premières missions ont été des missions d'observation. D'ailleurs, avant même la première mission, il y a eu des missions d'observation vraiment dédiées purement à l'observation, de diagnostic, si on veut, de la situation. Et la confiance, oui, je pense que si on voit une évolution, c'est l'évolution de l'efficacité des missions parce que les gens ont confiance, parce que le personnel de l'hôpital attend le personnel de l'ASD, parce qu'ils sont vraiment en mode d'apprentissage, de curiosité, comme le dit Eric, ce qui rend nos interventions particulièrement efficaces. Aujourd'hui et de plus en plus.
Alors il y a un mot que vous utilisez, et puis bien sûr dans le public on a d'autres expériences de ce mot, c'est l'hypnose. Est-ce que vraiment c'est magique ?
L'hypnose, je pense que de tout temps on a utilisé ce système qui est en fait, pour la définir... L'hypnose est un mauvais terme. L'hypnose veut dire sommeil. Bon, hypnose, tout le monde a en tête la mythologie avec hypnose et Thanatos, c'est-à-dire le sommeil et la mort. En fin de compte, l'hypnose, c'est pas médical en tout cas, n'est pas du tout un sommeil. C'est pour ça qu'il y a une tendance à changer ce terme à l'heure actuelle où un certain nombre de soignants, aussi bien médecins que qu'infirmier appelle plutôt thérapie d'activation de la conscience, parce que tout se passe dans la conscience. Alors en fait, on fait ce qu'on appelle une modification de cette conscience. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, comment dire, quand on met la personne dans ce qu'on appelle une sorte d'hypnose, je rappellerai hypnose pour être plus simple quand même, on ne dort pas. On a simplement cette conscience modifiée. C'est-à-dire que ça permet effectivement, dans la conscience modifiée, de pouvoir agir sur le non-conscient pour pouvoir être, modifié, par exemple, nos sensations. En gros, tout le monde sait que quand on est occupé, qu'on va voir quelque chose d'intéressant, qu'on va au cinéma, par exemple, si on traîne une douleur derrière soi, la douleur peut être réduite parce qu'on a l'esprit qui est quand même occupé à autre chose. Donc, en fait, ça réside de ce point de vue, c'est-à-dire pouvoir diminuer, voire supprimer les sensations désagréables et aller plutôt vers des sensations agréables. Donc l'hypnose, ça sert à ça, c'est-à-dire que on va pouvoir, avec cette méthode qui est ancestrale, hein, je dirais que, effectivement, l'un des pères de l'hypnose, c'est Mesmer, mais pas celui actuel, c'est celui qui vivait sous Louis XVI. Et donc, je pense que même bien avant Mesmer, on utilisait l'hypnose. Ça c'est quand même décrit par les Grecs, les philosophes grecs en ont parlé, etc. Je pense que ça fait partie de l'histoire humaine, l'hypnose. Ça permet effectivement de baisser ses intensités douloureuses. Et je pense que notre intérêt pour développer ça, c'est que, bon, c'est quand même intéressant d'avoir une baisse de l'intensité douloureuse par des méthodes qui ne sont pas médicamenteuses. Parce que vous avez toujours, en utilisant des médicaments, il faut faire attention parce qu'on a toujours des effets secondaires. Et les effets secondaires sont parfois aussi difficiles à vivre. Donc si on peut, avec l'hypnose, baisser les intensités douloureuses, je dirais que ça marche aussi au Cambodge, puisque au niveau physiologique, c'est exactement le même fonctionnement. Mmh. Moi, je dirais que bon, il y a peut-être d'autres paramètres hein, qui sont la religion, peut-être, qui sont la culture, etc., qui vont éventuellement modifier, je dirais, moi, les sensations douloureuses, parce qu'on n'a pas du tout la même culture. Mais bon, ça, je pense que aussi, on peut utiliser leur propre culture pour éventuellement baisser leurs intensités douloureuses.
Alors, votre association, qui est une association de la loi 1901, je suppose que vous êtes reconnu d'utilité publique et que vous recevez des dons.
Nous recevons des dons. Nous fonctionnons grâce à la fois à l'engagement et la générosité en temps de nos bénévoles, qui constituent quand même la part la plus importante des contributions et que je salue. Et effectivement, des dons de personnes qui se sentent concernées par notre action et qui reconnaissent son efficacité.
Et comment vous vous situez par rapport aux autres associations? Vous êtes une petite association où il y a des associations qui traitent le même sujet mais qui ont une ampleur beaucoup plus importante au niveau international?
Nous sommes une association extrêmement modeste. Mais je pense assez original dans sa démarche. Et à ma connaissance, nous sommes en lien avec des associations qui interviennent au Cambodge, qui interviennent médicalement, qui interviennent sur le terrain, sur bien des sujets dans ce pays qui mérite de l'attention. Mais avec une attention aussi spécifique sur la douleur, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, on n'est pas en contact avec d'autres.
Alors on peut peut-être donner au moins un certain nombre de caractéristiques, comme par exemple vos coordonnées, votre site, etc., pour qu'on puisse connaître un peu plus.
Donc si vous êtes intéressé par notre action, si vous êtes intéressé pour nous aider, aussi bien de votre temps, si vous avez des compétences, qu'avec des dons, je vous engage à taper sur votre moteur de recherche ASD Douleur. ASD Douleur, et votre moteur de recherche pointera sur le site de l'association, soit au travers Aloasso, soit au travers de l'association, et vous trouverez là tous les liens, soit pour contribuer et nous faire partager votre générosité, soit pour prendre contact avec nous si vous souhaitez partager votre expertise et pourquoi pas étendre notre action à d'autres hôpitaux, à d'autres pays, et faire connaître notre action au-delà du périmètre sur lequel on agit aujourd'hui.
Alors, pour participer en tant que bénévole, il faut avoir une formation de base déjà solide, reconnue déjà en France?
Je dirais au niveau médical, au niveau soignant. Peut-être, oui, je pense que, évidemment, c'est, comment dire, dans le cadre de la prise en charge de la douleur, et il faut quand même, effectivement, connaître, je dirais, la façon dont la douleur est prise en charge. Qu'est-ce qui agit, qu'est-ce qui agit pas, quels sont les effets secondaires, quelles sont aussi les composantes surtout de cette douleur, parce qu'il n'y a pas uniquement que des composantes en lien, comme je disais, avec une lésion tissulaire. Vous avez aussi la souffrance, vous avez les émotions, vous avez les difficultés de vivre avec cela qui pèsent énormément. Donc, de ce fait, je pense que oui, il faut quand même avoir ces connaissances médicales ou soignantes qui permettent éventuellement d'agir dans un hôpital là-bas. Mais je dirais, c'est pas uniquement non plus médical. Il y a aussi la logistique, il y a aussi, la recherche effectivement de dons, il y a... nous sommes une équipe qui est constituée uniquement de bénévoles. C'est-à-dire que l'ensemble de l'argent que nous pouvons dont nous disposons va directement. Il y a très très peu de, par exemple, de frais de fonctionnement dans cette association. Tout l'argent est destiné effectivement à la prise en charge de la douleur.
Je préciserai d'ailleurs qu'en termes de compétences, le personnel qui se déplace sur place est du personnel qui a une expérience médicale, mais qui va aussi bien de médecins qualifiés dans des spécialités, d'anesthésistes, que des infirmières. Pour parler aux infirmières localement de la prise en charge de la douleur par les patients, on a trouvé que les infirmières étaient particulièrement bien placées et quelquefois établissaient un dialogue au quotidien qui était aussi bénéfique que celui qu'elles pouvaient recevoir d'une formation d'un professeur qui dédie son temps effectivement à parler avec les médecins. Donc on a quand même un échange. On couvre une bande d'expertise très large et au contraire, la richesse d'association vient également de ces échanges avec du personnel soignant qui a des formations, des points de vue différents qui se complètent parfaitement et qui sont essentiels pour faire fonctionner un hôpital.
Eh bien, merci de nous avoir décrit l'ensemble de cette association et comment elle fonctionne. Maintenant, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter un peu de musique cambodgienne qui vous permet de vous situer un peu dans cet environnement. L'émission a été animée par Guy Wagner et à la technique par Pierre Écart. Merci et au mois prochain pour une nouvelle association.
Merci.
Merci. Thank you.